Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. À Paris, il est 2h.
Mathis Limano.
Et à la une, 5 ans pour reconstruire la bande de Gaza sans en expulser ses habitants. Voilà le plan proposé par l'Égypte et voté ce mardi par les dirigeants arabes réunis au Caire. Alors que les négociations entre Israël et le Hamas sont toujours grippées sur la suite du cessez-le-feu. En Serbie, le mouvement de protestation anticorruption s'invite dans l'enceinte du Parlement. Des élus de l'opposition ont allumé des fumigènes, plongeant la séance parlementaire dans le chaos. L'avenir du président Vučić toujours très incertain, alors que la grogne ne faiblit pas. Au Mali, négociations en cours pour mener des opérations militaires conjointes entre les djihadistes du JNIM et les rebelles du FLA. Et puis les filets ont tremblé ce mardi en Ligue des Champions. 17 buts inscrits sur les 4 matchs, dont de très belles réalisations. On en parle en fin d'édition. Et direction l'Égypte. Pour commencer, les dirigeants de la Ligue arabe réunis ce mardi au Caire ont adopté un plan pour la bande de Gaza. Plan à l'initiative de l'Égypte d'un montant de 53 milliards de dollars. Il prévoit une reconstruction de l'enclave en 5 ans et doit garantir, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le maintien des 2 millions d'habitants sur place, à l'opposé des velléités de Donald Trump d'expulser les Gazaouis de leur terre. Ce sommet de la Ligue arabe s'est tenu dans un contexte de blocage sur la suite du cessez-le-feu. Elle devait entrer en vigueur ce week-end, mais les discussions sont dans l'impasse. Israël a de nouvelles demandes que le Hamas rejette. On fait le point avec Muriel Paradon.
Il faut une démilitarisation totale de la bande de Gaza, affirme Israël par la voix de son ministre des Affaires étrangères Gideon Saar. Inacceptable pour le Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien, rendre les armes constitue selon lui une ligne rouge. Par ailleurs, les Israéliens réclament de nouvelles conditions sur les otages. Ils veulent des libérations immédiates et la prolongation de la première phase de la trêve jusqu'au 20 avril. Une proposition émanant, disent-ils, de Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump. Le Hamas lui refuse, il veut s'en tenir à l'accord initial. La deuxième phase prévoyait bien une libération des otages, mais selon un calendrier à définir, avec un retrait total de l'armée israélienne de Gaza et un cessez-le-feu définitif. Pour l'instant, c'est l'impasse. Israël bloque depuis dimanche l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, accusant le Hamas de la détourner. Vive réaction à travers le monde. Pour le chef de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, cette décision menace les vies de civils épuisés par 16 mois de guerre brutale.
Muriel Paradon, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne dit avoir tué 3 Palestiniens, dont un chef local du Hamas, à Jenin, alors qu'Israël a annoncé étendre son offensive à de nouveaux quartiers de la ville du nord de la Cisjordanie. Volodymyr Zelensky veut arranger les choses avec Donald Trump. Après l'altercation à la Maison-Blanche, puis le gel de l'aide militaire américaine, le président ukrainien s'est dit prêt à travailler sous le leadership de Donald Trump pour obtenir une paix durable. Et pour montrer sa volonté de faire revenir la paix, Volodymyr Zelensky a proposé une trêve avec Moscou dans les airs et dans les mers. Première étape d'une paix durable, d'après Kiev. RFI 2 heures passées de 3 minutes à Belgrade. Session chaotique ce mardi au Parlement serbe. Un épais nuage de fumée déclenché par les fumigènes des députés de l'opposition. Plusieurs élus ont été blessés dans cette action en soutien aux manifestations anticorruption qui secouent la Serbie depuis plusieurs mois, Laurent Rouy.
Ce député de la majorité est inaudible. L'opposition bloque l'Assemblée, mais le pouvoir essaye à toute force de se maintenir. Député d'opposition du Front des Verts et de la Gauche, Radomir Lazovic harangue la foule, massée devant le Parlement.
Sans le soutien des citoyens, de la société civile, des experts, des médias, tous ceux qui ont la liberté dans le cœur, on ne pourra rien faire. Il ne doit y avoir qu'un seul ordre du jour à l'Assemblée aujourd'hui. Accepter toutes les demandes des étudiants.
Dans l'hémicycle, l'opposition a lancé des fumigènes, vidé des extincteurs sur 2 ministres. Certains en sont venus aux mains. Dehors, la foule jette des œufs sur le bâtiment, invective le gouvernement. Voleurs, assassins, démission. Pour ce manifestant, le président est responsable de tous les maux.
Le Parlement exécute le bon vouloir d'un seul homme. On doit se battre, on doit mettre son pouvoir à terre.
À une fenêtre, la bannière à la main ensanglantée des protestataires donne l'impression que le Parlement a déjà basculé. En ville, on ne parle que des scénarios sur la fin du président Vučić. Il est pourtant toujours au pouvoir. La situation est de plus en plus imprévisible. Laurent Ruy, Belgrade, RFI.
Au Mali, négociations en cours entre les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM. Les frontières ont toujours été poreuses entre ces groupes qui avaient d'ailleurs déjà conclu un pacte de non-agression. Il s'agit à présent d'aller plus loin et mener des opérations militaires conjointes, dans le nord du Mali notamment. Mais David Baché, des divergences de fond limitent la portée des discussions.
Le FLA et le JNIM combattent déjà, chacun de son côté, le même ennemi commun, l'armée malienne et ses partenaires de Wagner. Les discussions initiées début décembre ne sont pas encore terminées, mais selon plusieurs cadres du FLA, une entente aurait déjà été trouvée pour mener et revendiquer des attaques, désormais de manière conjointe, dans le nord du Mali. Autre point de négociation avancé, l'installation d'une structure de justice islamique, religieuse mais non radicale selon plusieurs cadres du FLA, dans les régions du nord, avec des cadis et marabouts locaux. Certains points constituent en revanche des blocages, comme la prise d'otages et les attaques kamikazes du JNIM. Surtout, le FLA combat pour l'indépendance de l'Azawad, les régions du nord du Mali, et ne compte pas renoncer à cet objectif sur un territoire bien délimité. Alors que le JNIM combat pour imposer la charia dans tout le Mali, mais aussi au Niger, au Burkina et de plus en plus dans les pays côtiers. Or, le JNIM refuse à ce stade de rompre ses liens avec Al-Qaïda. Cette perspective ne serait toutefois pas exclue sur le long terme. Les négociations se poursuivent, mais elles renforcent déjà la position des autorités maliennes de transition, qui qualifient indistinctement rebelles indépendantistes et djihadistes de terroristes.
En France, à présent, c'est un immense soulagement pour le collectif des victimes de Betaram, la congrégation religieuse longtemps à la tête de l'établissement scolaire au cœur d'un scandale de violences physiques et sexuelles, reconnaît sa responsabilité. Alain Esquer, porte-parole d'un collectif de victimes, salue la décision, mais appelle à aller plus loin.
On est vraiment très heureux que la congrégation reconnaisse cette responsabilité parce que ça va aussi permettre à tous les autres établissements de France de faire une jurisprudence Betaram qui va permettre à toutes les victimes d'être indemnisées pour les actes commis par les laïcs. Par contre, je voudrais quand même souligner qu'il y a un grand absent. C'est toutes les victimes des violences physiques, des humiliations, des tortures de type piqûres sous-cutanées qui ont été faites à des enfants. Pour le moment, la congrégation ne reconnaît pas ses victimes. Donc là encore, il va falloir individualiser la prise en charge et permettre de voir de quelle façon on peut accompagner ces personnes parce que là encore, elles ont eu des vies qui ont été abîmées.
Alain Esquer avec Baptiste Coulon. Des nouvelles du pape François. Il a passé la journée de mardi sans nouvelle crise respiratoire. Son état de santé est stable, indique le Vatican. À 88 ans, le pape François est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis plus de 2 semaines pour une pneumonie. Et puis en Ligue des Champions, 4 matchs ce mardi soir pour les 8e de finale aller. Des rencontres prolifiques avec pas moins de 17 buts inscrits et des beaux, notamment à Santiago Bernabéu lors du derby madrilène entre le Real et l'Atlético, Eric Mamrut.
Les buteurs ont régalé à Madrid avec 3 chefs-d'œuvre. Le premier signé Rodrigo dès la 4e minute. Le Brésilien superbement lancé par Valverde qui s'est joué avec maestria de la défense de l'Atlético pour crucifier Oblak d'une puissante frappe du gauche. La réplique une demi-heure plus tard. L'exploit personnel est signé cette fois Julian Alvarez, l'Argentin auteur d'une merveille de frappe enroulée du droit, poteau opposé rentrant. Un but partout à la pause, mais dès la reprise, Brahim Diaz y allait lui aussi de son petit festival. Le Marocain enchaînant les dribbles dans la surface adverse pour conclure d'un tir millimétré. 2-1 pour le Real face à l'Atlético, ce sera le score final. À Eindhoven, les Gunners de Thomas Partey ont fait encore mieux en s'imposant 7-1 sur le terrain du PSV. Le Ghanéen d'Arsenal a délivré une passe décisive. Autre victoire anglaise à l'extérieur, celle d'Aston Villa sur le terrain de Bruges, 3-1. Le club belge du Marocain Chesdin Talbi et du Nigérian Raphaël Onyedika mal parti dans la course au quart de finale. Rien n'est fait en revanche entre le Borussia Dortmund et Lille, qui se sont quittés 2-2 en Allemagne. 1-1 avec des dogs qui ont parfaitement réussi à museler Serou Guirassy, le Guinéen pourtant meilleur buteur de la compétition.
Eric Mamrut, service des sports de RFI. Ce mercredi, suite et fin de ces 8e allées de la Ligue des Champions, avec notamment le choc PSG-Liverpool. RFI, il est 2h10 à Paris, 1h de moins en temps universel. Tout de suite, c'est Priorité Santé sur la Radio du Monde.